VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, 11h, temps universel. 5 soldats égyptiens ont été tués dans la péninsule du Sinaï dimanche par des éléments fondamentalistes. Dans un communiqué publié, l'armée égyptienne indique que les forces armées déploient avec tristesse et douleur les 5 martyrs tués dans le Sinaï des mains d'éléments fondamentalistes déloyaux, ennemis de la nation et de la religion. Aucun autre détail n'a été donné par l'armée et l'attaque n'avait pas été revendiquée aujourd'hui. La classe politique malienne se resserre le coude après l'attaque kamikaze de la semaine dernière à Gao. Un grand rassemblement de l'ensemble de la classe politique malienne, les organisations de la société civile s'est déroulé à Bamako. Tous les leaders des partis politiques, opposition et majorité étaient réunis pour dire non au terrorisme. Le président malien s'est dit à cette occasion plus que jamais déterminé. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali.
Le mouvement qui a osé revendiquer avec panache ce crime, il le paiera. Al-Mourabitoun paiera cela. Il ne sera pas dit que ces jeunes gens auront été massacrés en vain par des hommes sans foi ni loi. Il nous reste, chers amis, tous à combattre le monstre et à le poursuivre jusque dans ses dernières extrémités. Et cela sera le cas, Inch'Allah.
Ibeka, le chef de l'État malien. Les salariés de Shell Gabon qui avaient déclenché une grève le 12 janvier pour obtenir des garanties et des indemnisations sur fond d'inquiétude sur la vente d'une partie des actifs de la société ont repris le travail après un accord avec la direction. Selon l'Organisation nationale des employés du pétrole, l'ONEP, syndicat qui avait appelé à la grève et cité donc par la presse gabonaise. Shell doit signer courant janvier un accord de vente de ses actifs au Gabon avec le fonds d'investissement américain Carlyle, selon une source proche du dossier, avançant une transaction d'un montant compris entre 600 millions et 1 milliard de dollars. Des représentants de l'opposition politique, de la société civile et de la diaspora burundaise se sont réunis ce week-end en Belgique pour arrêter une stratégie commune contre le pouvoir burundais. D'après l'AFP, cette réunion a rassemblé 34 personnalités, dont les principales figures politiques regroupées au sein du Sénarède et celles de la société civile ayant fui le Burundi en raison de la répression sanglante qui s'est abattue sur le pays. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis l'annonce en avril 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé et son élection en juillet de la même année. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 300 000 personnes à quitter le pays depuis avril 2015. Le premier ministre mauricien Sir Arnaud Jugnot a présenté aujourd'hui sa démission à la présidente Amena Gourib Fakim, qui a aussitôt nommé le fils du premier ministre sortant, Pravind Jugnot, pour le remplacer. Jugnot, lui-même âgé de 86 ans, un cacique de la vie politique mauricienne, avait annoncé samedi son intention de ne pas aller au bout de son mandat censé prendre fin en 2009. Pravind Jugnot, le nouveau premier ministre, âgé de 55 ans et actuel ministre des Finances, est le chef du mouvement socialiste mauricien MSM, le principal parti de la coalition au pouvoir. C'est à ce titre que la présidente lui a demandé de succéder à son père.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a affirmé dimanche qu'il allait commencer à renégocier l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, avec les dirigeants du Canada et du Mexique qu'il doit rencontrer prochainement. L'ALENA, entré en vigueur en janvier 1994, associe les États-Unis, le Canada et le Mexique dans une vaste zone de libre-échange. Il fait partie des cibles privilégiées de Donald Trump, qu'il accuse d'avoir encouragé l'exode d'emplois manufacturiers américains vers le Mexique. Et puis, à peine 48 heures après sa prestation de serment, le président américain Donald Trump est aux prises avec la presse qui l'accuse d'avoir falsifié les données sur la participation du public à son investiture. Pourtant, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a des questions sérieuses à aborder dès la semaine prochaine, la semaine de son mandat, notamment les décisions pouvant affecter l'économie et la diplomatie américaine. Gabi Dorsil en a discuté avec l'ancien secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, Herman Cohen.
Son discours, après avoir prêté serment, était très pessimiste. Le pays est en très mauvais état, les gens sont en train de souffrir. Et il y a une petite bande de politiciens à Washington qui s'est enrichie et ils n'ont rien fait pour le peuple. Donc, il a insulté tous les politiciens qui étaient là sur la plateforme avec lui, tous les anciens présidents, etc., même les républicains. Donc, il a commencé avec la controverse. Et après, il s'est embourbé avec la question de combien de gens étaient présents pour l'inauguration. Il a dit que c'était le plus grand nombre dans l'histoire, tandis que les photos ont montré qu'Obama a eu beaucoup plus de gens que lui. Donc, à mon avis, il est mal parti.
On le critique d'autant qu'il l'a fait à la CIA, dans un endroit qui est plutôt vénéré.
Dans un endroit avec des étoiles pour les gens de la CIA qui ont perdu leur vie pendant leur travail. Il a commencé à attaquer la presse. C'était pas bien. Donc, il n'a pas la capacité de ne rien dire.
Et cela nous amène à samedi. Comment rester en silence, de toute façon, quand il y a des centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue pour vous critiquer?
Non, il a dit deux choses. D'abord, il a dit, s'ils sont tellement enthousiastes contre moi, pourquoi ils n'ont pas voté? Mais la réponse est, ils sont votés parce que Mme Clinton avait 3 millions de votes plus que lui. Mais après, il a dit, je respecte le droit de manifester. Ça fait partie de notre démocratie. Donc, il a bien fini avec cette histoire. Il a dit des bonnes choses.
À quoi faut-il s'attendre pendant cette première semaine de Donald Trump dans le bureau ovale de la Maison-Blanche?
Le premier ministre d'Angleterre va venir ici. Et comme vous savez, l'Angleterre va quitter le marché commun, l'Union européenne. Et il a dit que c'est une bonne chose. Donc, il va proposer des accords bilatéraux avec différents pays, et en commençant avec l'Angleterre.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines. Les premiers pour parler de paix entre les rebelles syriens et émissaires de Damas ont débuté aujourd'hui à Astana et sont marqués d'emblée par le refus de dernière minute des insurgés de négocier directement avec les représentants de Bachar al-Assad. À Astana, les pourparlers qui doivent durer au moins 2 jours ont été ouverts à 8h GMT à l'hôtel Rixos par le ministre kazakh des Affaires étrangères, Khairat Abdurakhmanov, devant les 2 délégations syriennes rassemblées dans une même pièce autour d'une grande table circulaire. Oui, de plein pied dans la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Gabon, pays organisateur, est désormais éliminé. Le Cameroun termine 2e du groupe A. Et à l'issue de la 3e journée dans ce groupe, le Gabon a été tenu en échec 0-0 par les Lions indomptables du Cameroun. Timothée Donangmaï.
Les Panthères du Gabon quittent la CAN 2017 en phase de groupe, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de se maintenir dans la compétition. Très entreprenantes à l'entame du match de dimanche soir contre les Lions du Cameroun, elles ont déployé la même énergie aux minutes finales, manquant d'ouvrir le score aux arrêts de jeu. Un maigre lot de consolation qui pourra difficilement penser le cœur meurtri des fans gabonais.
Il faut tout simplement qu'on investisse notre argent dans un autre sport. Plus le football, c'est fini. C'est des tocards.
Ils ne savent pas jouer au ballon. C'est décevant.
Pour le coach José Camacho, qui a pris en main les Panthères à 2 mois de la compétition, il ne fallait pas s'attendre au miracle.
Je
suis désolé pour les joueurs et le public. On a vu que dès les premières minutes, on voulait gagner. On a les victoires, on n'a pas eu de chance. Pour passer au quart de finale, nous a manqué les 2 points qu'on a perdus dans le premier match.
Après leur déception, les Gabonais auront-ils le cœur à aller au stade applaudir les autres équipes? C'est ce qu'espère la Confédération africaine de football et le comité local d'organisation. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA.
Merci Timothée. Et dans cette poule A, le Burkina Faso a battu la Guinée-Bissau 2-0. Le Burkina se retrouve donc en quart de finale, premier donc de la poule A avec le Cameroun. À suivre ce lundi dans le groupe B, Tunisie, Zimbabwe et Sénégal-Algérie. Les Lions de la Teranga, les Sénégalais donc, sont qualifiés alors que les Fenech d'Algérie doivent absolument l'emporter pour espérer aller en quart de finale. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent et à bientôt. Merci pour votre fidélité.
« Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.